Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, INLI, Axéo et ID Pro sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue sur Radio Imo, en direct du CIMI édition 2025, en direct de la Porte de Versailles. On vous fait vivre cet événement pendant 3 jours. Là, ça y est, on a attaqué la dernière demi-journée. Je vous rappelle qu'on est le 11 décembre, en plein cœur d'une crise du logement que tout le monde décrit comme une bombe sociale. Production neuve en berne, locataires qui peinent à se loger, retrait progressif d'une partie des bailleurs privés du marché. 2025, c'est aussi l'année où les logements classés G au DPE, au diagnostic de performance énergétique, sont interdits à la location, ce qui accélère la sortie de nombreuses passoires thermiques du parc locatif privé sans que l'offre de logements rénovés n'ait encore pris le relais. Côté outils publics, 2 chantiers structurants se télescopent. Le statut du bailleur privé, inspiré du rapport Cosson de Brest, désormais inscrit dans le budget 2026 avec un dispositif d'amortissement fiscal en cours de finalisation. On va en parler dans quelques instants. Et l'encadrement des loyers qui fait parler de lui aussi, dont la mission flash de l'Assemblée a recommandé à l'automne la pérennisation et l'extension, et qui fait l'objet d'une proposition de loi socialiste aujourd'hui même pour éviter sa disparition en 2026. Pour décrypter tout ça, j'ai 2 invités, et pas des moindres, 2 invités qui sont au cœur des débats. Le député Mickaël Cosson lui-même. Bonjour, bonjour, monsieur le député. Député des Côtes d'Armor, co-rapporteur de ce fameux rapport parlementaire sur le statut du bailleur privé qu'on a attendu longtemps. Et Lionel Cosse, bonjour.
Bonjour.
Député des Landes, très engagé sur l'accès au logement, la régulation des marchés locatifs et la construction d'un pacte locatif citoyen entre bailleurs, locataires et pouvoirs publics. Alors, on va parler de plein de choses. Fiscalité, encadrement des loyers, DPE, mais surtout visibilité et confiance. Alors, on va essayer d'être concis. Vous devez retourner après à l'Assemblée nationale et expliquez-nous ce qui va se passer avec ce fameux encadrement des loyers. On en est où ?
Alors, on en est effectivement aujourd'hui avec un débat qui va avoir lieu sur l'encadrement des loyers suite à une proposition du groupe socialiste. Et le but, c'est quelque part, pour notre parti, je pense le Modem, c'est de faire en sorte qu'on ne rajoute pas de la contrainte aux nombreuses contraintes qui existent déjà et qui font que les gens se sont détournés de l'investissement de la pierre. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on a tendance à prendre de l'aspirine sans soigner la douleur. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un problème d'offre. On n'a pas un problème qui est de connaître une offre conséquente. Non, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus suffisamment d'investissements. On a des listes d'attente qui ne cessent de croître aussi bien dans le parc public que dans le parc privé. Des promoteurs, vous avez pu le voir au CIMI, qui ont aujourd'hui un carnet de commandes qui ne cesse de diminuer, voire même parfois commence à ne plus être là. Et ce n'est pas la meilleure des manières pour moi de répondre à une offre qui sera, à mon sens, le moyen d'encadrer les loyers, c'est de l'offre. Plus vous avez de l'offre, plus les loyers se réguleront. Et ce n'est pas en imposant des règles supplémentaires qu'on va donner envie à des gens d'investir dans la pierre.
C'est vrai, on manque cruellement de logements en France. C'est très vaste ce que vous dites. Il y a aussi une longue liste d'attentes sur le logement social. Là, on arrive à 3 millions de demandes de logements sociaux. C'est du jamais vu en France. Lionel, j'aimerais votre avis aussi sur le sujet. Donc vous aussi, vous repartez à l'Assemblée.
Je vais repartir à l'Assemblée. On verra après ce que donnera le débat qui est lancé par le groupe socialiste dans la journée qui leur est dédiée. Donc c'est eux qui mettent les sujets à l'ordre du jour. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense avec mon collègue Mickaël Cosson, on a abordé cette phase de PLF-PLFSS avec des objectifs très clairs. 1, redonner des moyens financiers aux bailleurs sociaux pour relancer la construction et améliorer l'offre de logements sociaux et intermédiaires. 2, redonner confiance aux investisseurs privés en les faisant revenir en travaillant. Et je sais que c'est compliqué, et Mickaël y travaille beaucoup. On essaie de se battre, on fait en sorte de trouver un statut du bailleur privé qui puisse permettre aux investisseurs de venir dans la durée et donc de relancer une offre de 40-50 000 constructions par an pour venir compenser ce que nous avions perdu avec le Pinel.
Avec la fin du Pinel, qui
quelque part...
Qui s'est terminé le 31 décembre.
Fait des constructions, donc des offres en moins et qu'on n'a pas réussi à compenser sur autre chose, avec aussi quelques sujets qui me tiennent à cœur, c'est tout ce qui concerne l'accès sur la propriété, en particulier pour les primo-accédants, pour les jeunes, parce qu'il y a un sentiment de déclassement. Voilà, donc nos objectifs étaient clairs. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire tout à coup, qui nous tombe sur le nez comme ça, parce que ce n'était pas forcément prévu, une PPL du groupe socialiste sur l'encadrement des loyers, alors que tout le reste n'est pas acquis et qu'on est en train de se battre pour avancer, pour donner des signaux pour 2026. Et moi, ma crainte, c'est quoi? C'est qu'on donne le signe en 2026 qu'en fait, on va encore montrer du doigt, stigmatiser et faire passer les propriétaires bailleurs privés pour des gens qui usent et qui profitent du fait qu'ils possèdent un logement, voire un petit logement, et des petits propriétaires bien souvent. Alors, je peux comprendre politiquement l'idée qui est de dire on veut tous du logement abordable et pas cher. On veut tous faire en sorte que les gens puissent se loger en louant moins cher ou en accédant à la propriété moins chère. Mais il faut arrêter de le faire par de la contrainte. Il faut le faire en stimulant les gens, les incitant justement à faire des offres accessibles. C'est pour ça qu'on a porté un amendement sur leur avantage, comme l'an passé, pour justement, c'est de dire aux bailleurs privés, vous louez moins cher, on vous fait une aide de l'État, etc. Donc c'est du donnant-donnant pour tout le monde et on retrouve un équilibre, plutôt que de faire de la contrainte. Et là, moi je vous dis, c'est un mauvais signal, c'est pas le moment. Et raison de plus pour dire que c'est pas le moment, c'est que le gouvernement a lancé une mission, puisqu'on est en phase d'évaluation sur pas mal de communes, Paris et plein d'autres, qui sera rendue probablement aux alentours du mois de mai. Elle devait être rendue là, elle sera rendue autour du mois de mai. Imaginez si le Parlement vote l'encadrement des loyers, c'est-à-dire que là, on va le généraliser, l'ouvrir. Donc les maires vont prendre des décisions de le mettre en place ou pas dans leur commune.
Et qu'on a le rapport après.
Et qu'en mai, le rapport vient nous alerter sur... Moi, je suis incapable, en tant que député, de voter pour ou contre cette PPL. Donc je voterai bien sûr contre si je peux être là dans l'hémicycle à ce moment-là, parce que ce n'est pas le moment et qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre sérieusement ce genre de décision.
Et je compléterai, vous avez sans doute dû le voir, il y a une enquête de la Commission européenne qui est sortie sur la crise du logement et la Commission européenne a identifié trois causes à cette crise du logement. Donc c'est le télétravail, les locations touristiques et l'encadrement des loyers. C'est les trois causes identifiées par la Commission européenne pour expliquer la crise du logement en Europe.
Attention, l'encadrement des loyers, c'est une décision réglementaire qui s'impose.
Pour faire fuir les investisseurs, ça fait fuir les investisseurs. Parce que quel est le problème, en fait? C'est que l'encadrement des loyers, ça fait peur aux investisseurs. Moi, j'ai échangé en début de semaine avec tous les présidents de réseau. On était au congrès de la Fédération nationale de l'immobilier. J'ai échangé avec Charles Malenakis, le président de Century 21, avec Guillaume Martineau, le président d'Orpi, avec Yann Géhanneau, le président de La Forêt, et aussi avec Loïc Quentin, le président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Les quatre m'ont confirmé, hein, c'est les chiffres qui parlent, c'est factuel, que les investisseurs dans l'ancien, là je parle dans l'ancien, pas dans le neuf, l'œuf c'est encore un autre problème, dans l'ancien ont disparu, ils ont déserté. Les chiffres de La Forêt, hein, le réseau de La Forêt, ils sont passés de 27% d'investisseurs à 17% en un an. Ils ont perdu 10 points d'investisseurs. Et la première, les présidents m'ont dit, dans les deux premières questions que demandent les investisseurs avant d'y aller, c'est est-ce que la ville est encadrée? Est-ce qu'il y a un encadrement des loyers? Sinon, j'y vais pas.
Et qui va prendre ce risque quand vous avez aujourd'hui au mieux 3% brut de rendement, d'aller vous mettre dans du locatif, sachant que vous ne pourrez pas augmenter les loyers et que par contre les impôts locaux vont augmenter. Parce que les communes qui vont vous empêcher d'augmenter les loyers ne vont pas se priver d'augmenter les
Bien
impôts
sûr,
fonciers.
Et le prix
et
du
souvent
foncier.
Beaucoup plus. Donc comment vous voulez vous en sortir? Au bout d'un moment, il y a une réalité économique. Donc où on baisse énormément les impôts qui sont liés au secteur du logement dans notre pays, mais je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour, mais ça pourrait être une des solutions pour relancer effectivement toute l'activité. Ou sinon, il faut permettre aussi une certaine forme de liberté. Surtout que déjà, les loyers sont encadrés chaque année. Puisqu'il y a l'IRL qui s'applique. Donc chaque année, il y a l'IRL. Donc l'encadrement des loyers dont on parle, c'est celle entre deux locations qui fait que le nouveau propriétaire augmente fortement ou moins fortement, effectivement, le nouveau bail qu'il va mettre.
Moi, vous me disiez ce qui se passe à l'Assemblée, parce que les députés qui sont pour cet encadrement des loyers, alors ils pensent aux locataires, évidemment. Après, personne n'a envie, comme vous le disiez très bien, Lionel Causse, personne n'a envie de payer des loyers exorbitants. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, ces députés? Pourquoi il y a de telles différences? Pourquoi c'est vu de deux prismes aussi différents? Enfin, c'est quand même factuel. Les chiffres sont là.
Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a différents courants. On en est certain. Mais il y a une chose essentielle. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est que derrière, on n'a plus assez de logements pour louer, pour que les gens aient un toit sous la tête. Si on a des listes d'attente qui ne cessent de gonfler, c'est bien parce que du coup, il y a un problème d'offre. Mais si vous continuez à vouloir mettre des contraintes, parce que pour être locataire, il faut avant tout avoir un propriétaire. Et si vous incitez les gens à ne pas se tourner vers la pierre, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il n'y a pas d'offre. Ouais. Et qu'est-ce qui est cher? Ben, c'est ce qui est rare. Et aujourd'hui, plus le logement est rare, plus il est cher. Mais aujourd'hui, c'est pas en voulant continuer à mettre des contraintes. On a déjà mis des contraintes et qui sont légitimes par rapport justement... parce que quand tu payes un loyer, tu payes aussi des charges. Si on rénove ton logement, c'est une manière aussi de pouvoir gagner en pouvoir d'achat, d'avoir un logement décent. Mais il n'y a pas besoin en plus au propriétaire de lui dire « Alors, tu vas faire des travaux pour que justement tu puisses louer un logement décent, mais en parallèle, on va aussi encadrer ton loyer parce que tu ne vas pas pouvoir faire en sorte que tu puisses, de tes investissements, les récupérer par un loyer suffisamment important qui permette de payer tes charges. » Moi, je crois qu'aujourd'hui, on fait les choses à l'envers. On est en train, avec beaucoup de mal... de sortir un statut de bailleur privé.
Grâce à vous, d'ailleurs, on va parler du rapport dans quelques instants.
Était avec des conditions qui permettaient de retrouver les gens...
De redonner envie, en tout cas.
Redonner envie et la confiance dans la pierre. Sauf que si on le diminue, ces conditions, eh bien, on créera un statut de bailleur privé, mais sans les conditions. Et ce qu'il nous faut, c'est faire en sorte que les gens, à partir de 2026, se retournent dans la pierre. On a tout un pan d'économie qui est en train de se casser la gueule.
Si on a besoin que les Français investissent dans la pierre. C'est une nécessité.
On a besoin que l'ensemble des générations puissent investir dans la pierre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on parle beaucoup de l'épargne des Français. On a plus de 6 000 milliards qui sont en épargne. Faisons en sorte qu'une partie soit consacrée à faire que le problème qu'est le logement en France, eh bien, que ce soit les Français... Et les Français qui puissent le résoudre.
Ce que vous dites, c'est qu'une partie de cette épargne puisse servir, par exemple, d'apport qu'un Français qui a 10 000 euros sur son livret A se dise, tiens, ces 10 000 euros, je vais constituer un apport avec ça, je vais aller voir la banque, je vais acheter un appartement, un petit appartement que je vais mettre en location, ça va créer du logement.
Exactement.
On a besoin de ces gens-là.
Et je deviens acteur. Je ne fais pas que me plaindre. C'est-à-dire que derrière, je permets à mes enfants qui sont étudiants de pouvoir se loger. Je permets à mes enfants qui trouvent un premier travail de pouvoir se loger, de pouvoir investir aussi également la pierre. Et ça, on n'a pas encore créé les conditions qu'on veut continuer à créer des contraintes.
Il faut donner envie. Et j'aimerais revenir sur le neuf, parce que c'est important que les auditeurs comprennent aussi. On a besoin donc de ces investisseurs privés particuliers, ces Français, vous et moi, qui achètent un seul bien pour le louer. On a besoin d'eux aussi pour le neuf. Pourquoi ? Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, l'explique très bien. En fait, avant de démarrer un programme neuf, on a besoin d'avoir un certain nombre de réservations.
Commercialisation.
Depuis qu'il n'y a plus les investisseurs, depuis qu'on leur donne plus envie, parce qu'il n'y a plus rien qui les incite à investir, les projets ne partent plus. Les projets ne partent plus, donc on ne construit plus aussi à cause de ces investisseurs qui sont partis.
Tout à fait.
Donc on a besoin de le rapport. J'aimerais qu'on parle de votre rapport, le statut du bailleur privé. Le rapport initial était très bien. Il a été hyper bien accueilli par l'ensemble de la profession, mais pour les Français. Et puis il y a ce qui s'est passé après. Voilà. À l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, je voudrais parler de la méthode. Ce rapport, il n'est pas le fruit d'un travail de parlementaire, il est le fruit d'un travail de concertation avec l'ensemble de la profession immobilière. Le but, c'était de faire en sorte qu'on retrouve les conditions qui permettaient aux gens de pouvoir se dire « Moi, demain, je peux investir dans la pierre parce que du coup, j'aurai la rentabilité suffisante. Ça me permettra de pouvoir justement avoir mon bien, constituer mon patrimoine et autres. » Et donc, on a créé tout ce statut de bailleur privé parce que c'était une attente forte depuis plus de 10 ans. Et donc, c'était, avec ce statut de bailleur privé, d'avoir au moins les conditions qui le permettent de véritablement avoir un statut de bailleur privé. Ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, en fait, il a fallu aussi faire preuve de tractation et puis auprès des différents gouvernements qui sont succédés depuis ce statut de bailleur privé. Je rappelle qu'on est quand même à trois, si on parle des deux Lecornu, trois gouvernements qui se sont succédés depuis l'été. Et donc, initialement, en fait, il avait été inscrit dans la copie du premier PLF sous Béraud.
Létard comme ministre du logement.
Exactement, avec Valérie Létard, qui était ministre du logement. Et finalement, après, avec ce gouvernement qui n'est pas resté, il a fallu ensuite convaincre les services de Bercy, qui n'ont jamais été très faciles à convaincre, vous savez, dans le logement. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être qu'on est dans cette situation.
Est-ce que Valérie Létard arrivait, on avait l'impression qu'elle avait, qu'elle était un peu plus écoutée, je ne sais pas si elle était plus combattante, mais je ne parle pas pour Vincent Jeanbrun, le nouveau ministre du Logement, mais c'est vrai qu'on accordait ça à Valérie Létard, c'est ce que disait la profession, c'est qu'elle était entendue en tout cas à Bercy. Est-ce que c'était le cas?
Alors, pas suffisamment entendue comme elle aurait aimé. Valérie, l'État, effectivement, est convaincue également de ce statut de bailleur privé. Et maintenant, il nous reste à convaincre l'ensemble des groupes politiques qui puissent se dire que c'est pas parce que, du coup, on va à nouveau encadrer des loyers, diminuer la rentabilité, qu'on va permettre de pouvoir répondre aux problèmes d'offres que nous avons en France. Et donc, Valérie, comme l'actuel ministre, sont des gens convaincus. Maintenant, il nous reste à convaincre l'ensemble de la classe politique pour faire en sorte qu'en 2026, construire un logement en France soit quelque chose de l'ordre du réel et pas forcément que dans des projets de loi.
Lionel Causse, vous avez signé ou préfacé plusieurs travaux sur le logement, dont ce pacte locatif citoyen pour bâtir enfin le statut du bailleur privé. Dans votre vision, ce statut, c'est pas juste un article fiscal, hein, c'est vraiment un outil de rééquilibrage des relations bailleur-locataire. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendriez plutôt de ce statut en plus de l'avantage fiscal
C'est redonner confiance, comme vient de le dire, aux propriétaires privés pour revenir et pour qu'ils puissent avoir confiance. Le statut, ça se joue dans la durée. Le cycle du logement, il est long. On ne peut pas avoir un statut avec une mesure fiscale sur 3 ou 4 ans. Donc c'est vraiment un équilibre sur du moyen et du long terme qui donne de la visibilité. Donc je crois que des fois, voilà, on dit souvent statut avec des mesures fiscales sur quelques années. Bon, il y a peut-être un petit abus de langage, mais qui est important aussi. Ça nous permet d'avancer. Donc ce n'est pas forcément un problème en soi. Mais c'est vrai que dans les travaux qu'on avait menés avec l'Institut Janus, c'était justement pouvoir s'inscrire dans la durée, pouvoir rééquilibrer la relation entre propriétaire et bailleur et locataire. Voilà, donc c'est tout ce sujet-là qu'on essayait d'aborder, mais pas forcément que sous l'angle fiscal. L'angle fiscal étant un outil très important qui concerne le PLF, et c'est les débats que nous avons aujourd'hui. Donc là, on était plus sur un équilibrage global entre bailleur et locataire.
Alors, on va parler très concret, parce qu'il y a des bailleurs qui nous écoutent. La dernière version discutée donc dans le cadre du PLF 2026 repose sur un amortissement annuel autour, c'est 3,5, c'est ça, 4,5, 5, 5, 5, selon qu'on est logé en intermédiaire social ou très social.
C'est ça.
C'est ça, dans la limite de 80% de la valeur du bien et de 8000 euros par an pour deux logements.
C'est ça.
C'est ça. Et avec des conditions de location nues, de plafond de loyer, de ressources et une durée d'engagement d'environ 9 ans. Alors, on a fait le calcul, c'était plus avantageux de ne pas utiliser ce dispositif.
Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui pose souci, c'est que ce qui a été obtenu à l'Assemblée ou au Sénat n'est pas encore à la hauteur des conditions qu'on avait pu établir dans le statut de bailleur privé. Il nous faut encore rehausser l'amortissement. Il nous faut, bien entendu, faire en sorte que ces loyers encadrés, il y a une tranche qu'on doit sauter pour que, justement, on retrouve cette rentabilité. Et ça va être tout le travail qui est à mener ces prochains jours auprès des députés et sénateurs qui siégeront à la CMP, c'est de faire en sorte qu'on retrouve les conditions que initialement on avait réussi à élaborer pour que ce statut de bailleur privé ne soit pas juste un nom, mais bien un outil qui permette de pouvoir relancer la production de logements.
Et que ce soit enfin rentable pour les propriétaires. Quoi.
Exactement. Et ouais. Donc ça, c'est tout le travail qu'on va essayer de mener avec l'ensemble de la profession pour sensibiliser les 7 sénateurs et 7 députés qui, lorsqu'ils prendront la décision de créer un statut de bailleur privé, ils le fassent avec les conditions qu'on avait co-construites avec l'ensemble de la profession.
Donc là, vous parlez de la commission mixte paritaire.
Tout à fait.
Parce que c'est ce qui va se passer pour ceux qui ne suivent pas, qui ne connaissent pas. Il y a eu la navette parlementaire. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Du coup, c'est la commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs qui va trancher.
Et une fois qu'on aura ce statut de bailleur privé avec les conditions, il nous faudra l'accrocher à un budget.
Ça va être encore un long chemin fastidieux. Moi, j'aimerais vous faire réagir sur quelque chose. Hier, j'ai reçu la députée Annaïg Lemeur sur ce même plateau qui m'a dit si on enlève l'encadrement des loyers, les loyers vont exploser. Je trouve que le message qu'on envoie aux propriétaires... Il est quand même très inquiétant.
Ça, c'est
une stigmatisation des propriétaires, on est d'accord.
Stigmatisation, c'est désolé, mais c'est des grandes phrases pour pas grand-chose, parce que le sujet n'est pas là, c'est pas la question. Aujourd'hui, l'encadrement des loyers, il est jusqu'en novembre 2026. On est en expérimentation. Ce que nous demandons, c'est pas de le supprimer, c'est de prolonger l'expérimentation, le temps d'avoir toutes les études nécessaires pour pouvoir voter éventuellement la généralisation et la pérennisation de l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est qu'on n'a pas les éléments suffisants pour pouvoir prendre ce genre de décision, mais il n'a jamais été question de supprimer aujourd'hui l'encadrement des loyers. Ce n'est pas parce qu'on vote contre la PPL du groupe socialiste aujourd'hui qu'on sera contre l'encadrement des loyers, puisqu'elles sont il se poursuit jusqu'en novembre 2026. Et s'il faut le prolonger d'un an ou deux ans, pourquoi pas? Mais avant de généraliser, de prendre ce genre de décision, il faut en mesurer l'impact, mais l'impact global. Parce que si c'est sur un moment donné, rapidement, faire la politique au jour le jour, dire effectivement parce que tel propriétaire va récupérer son logement, mais du coup, il ne pourra pas augmenter le loyer. Donc, OK, résultat atteint, 100% parfait. Mais sur du moyen et du long terme, si ça fait ce que dit Mickaël, c'est-à-dire ça fait fuir les investisseurs privés, ça fait fuir les gens, ça sera la double peine. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on fait une vraie politique sur le logement. Il faut se donner du temps, et il faut avoir une politique sur le moyen et du long terme. Et ce que proposait Mickaël Cosson à l'Assemblée nationale est très bien, c'est très intelligent de pouvoir faire justement une offre du statut du bailleur privé sur du moyen et du long terme, avec justement des loyers encadrés à plusieurs taux, c'est-à-dire social, très social, intermédiaire. C'est comme ça, c'est de l'encadrement des loyers. Mais moi, j'invite les députés qui aujourd'hui veulent voter la PPL socialiste en cadre loyer à faire en sorte à venir se battre avec nous pour que la CMP nous donne un vrai statut du bailleur privé qui permettra d'avoir de l'encadrement des loyers sur beaucoup de logements et beaucoup plus, et ça sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus positif que ce qui risque d'être décidé aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Et sans langue de bois, alors est-ce qu'on va y finir par y arriver ou pas du tout? Vous pensez quoi? Sans langue de bois. Hein.
Sans langue de bois, je pense que...
Et sans grande phrase.
Si les parlementaires écoutent les Françaises et les Français, on veut du résultat. Et donc il nous faut un budget pour qu'on puisse mettre sur la table un statut de bailleur privé et faire en sorte qu'en 2026... on ait des conditions qui permettent aux gens de se projeter un peu plus sereinement qu'on ne le fait aujourd'hui. Et juste sur l'encadrement du loyer, faisons en sorte que ce statut de bailleur privé voit le jour dès le 1er janvier 2026. Et croyez-moi que s'il y a une offre, vous aurez la possibilité pour un locataire d'avoir le choix entre deux logements et il ira vers celui qui est le moins cher, si ça lui convient à ses besoins. Que si par contre il n'y a pas d'offre, tout ce qui est rare est cher.
Oui, c'est sûr que c'est la rareté qui fait monter la valeur. Dernière chose, si vous avez un message à faire passer, un message peut-être aux autres députés ou aux Français qui nous écoutent, voilà, un message, messieurs les députés.
Écoutez.
Écoutez, alors ça, on sent que c'est pour les députés. Écoutez les Français, c'est ça, écoutez c'est ça.
Et une fois qu'ils ont bien écouté, bien voté.
Oui, bien voté.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs les députés, d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau Radio Immo en direct du CIMI 2025 à la porte de Versailles. On continue les interviews, les tables rondes, à tout de suite sur nos antennes.
Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Immo et Radio Territoria.